Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Cameroun, l'explosion accidentelle d'une grenade fait au moins 11 morts dans un marché en périphérie de Fotokol. Le président togolais Faure Gnassingbé est officiellement candidat pour un quatrième mandat présidentiel. Fermeture des bars et des maquis au Tchad pour protester contre la hausse des prix. Au moins 50 morts et 212 blessés en Iran dans une bousculade lors des funérailles de Qassem Soleimani. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, selon un bilan fourni mardi par l'armée camerounaise, l'explosion d'une grenade a fait hier au moins 9 morts et 26 blessés sur la place d'un marché intermittent dans la zone de Gamboura, non loin de Fotokol au Cameroun, frontalière du Nigeria. Nous avons des précisions de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julnta.
Selon le ministère camerounais de la Défense, la grenade a explosé entre les mains de deux garçons qui se sont présentés lundi vers 13h30 temps universel au marché de Gala. Des survivants interrogés par l'armée ont affirmé que les deux garçons manipulaient l'engin explosif et promettaient de le vendre au plus offrant pour se faire un peu d'argent. Le marché était bondé. La déflagration a causé la mort d'au moins 9 personnes, toutes nigérianes. Les sources de sécurité disent qu'il y a eu de nombreux blessés, dont une vingtaine de nationalité nigériane et 5 de nationalité camerounaise. Selon le capitaine Cyril Serge Atonfak, chef de la division de la communication du ministère de la Défense, la grenade a été retrouvée dans le sable entre Fotokol au Cameroun et Gamboura au Nigeria. Ces deux localités sont séparées par la rivière El Beit, mais reliées par un pont. La piste d'un attentat de Boko Haram a donc été écartée par les autorités du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, un policier a été tué aujourd'hui dans des manifestations étudiantes contre la hausse des frais d'études à l'université de Kinshasa. Les autorités ont suspendu toutes les activités sur le campus. Au Burkina Faso, 6 combattants djihadistes ont été tués et 2 soldats burkinabés blessés au cours d'une opération qui a permis de démanteler une base djihadiste à Pisila, dans le nord du pays. Le président togolais Faure Gnassingbé va briguer un quatrième mandat. Le président sortant, en poste depuis 2005, a été choisi ce mardi à Lomé par les cadres de son parti pour être candidat à la présidentielle du 22 février dernier. De Lomé, la correspondance de Kaïl Osson.
C'est sans surprise que Faure Gnassingbé a été désigné candidat du parti UNIR, Union pour la République. C'était au cours d'une réunion politique du parti au pouvoir que le président sortant a accepté de porter le flambeau de son parti pour ses élections présidentielles. J'ai été informé du souhait des militants de me voir porter encore les couleurs de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté, a déclaré Faure Gnassingbé au micro de VOA Afrique à l'issue de sa désignation. Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, brigue un quatrième mandat. Il sera l'adversaire des candidats comme Agbéome Kodjo, candidat unique d'une partie de l'opposition togolaise, ou encore Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement. Le comité d'action pour le renouveau CAR, le parti de l'ancien premier ministre Yovi Aguibo, ne présentera pas de candidat à cette élection. D'après la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, 26 dossiers de candidature ont été retirés. La date limite des dépôts de candidature est fixée à ce mercredi 8 janvier 2020. Kailosson, Lomé pour VOA Afrique.
Au Kenya, 4 civils dont un enfant ont été tués par balle dans une attaque attribuée aux islamistes somaliens Shebab dans l'est du pays, près de la frontière somalienne, à 25 km du camp de réfugiés de Dadaab. La police kenyane est en état d'alerte depuis l'attaque dimanche d'une base militaire américano-kenyane à Lamu, dans le sud-est du pays. 3 soldats américains ont été tués dans cette attaque revendiquée par les djihadistes somaliens. Un millier d'étudiants ont manifesté aujourd'hui à Alger pour la 46e semaine consécutive contre le pouvoir. Ils jugent l'élection récente du président Abdelmajid Tebboune illégitime. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Accompagnés de simples citoyens et d'enseignants, les étudiants ont défilé sans incident dans le centre d'Alger au milieu d'un dispositif de sécurité, même s'il a été allégé par rapport aux semaines précédentes. Président illégitime, nous poursuivrons notre marche, ont scandé les manifestants à l'adresse de M. Tebboune, élu le 12 décembre lors d'un scrutin boycotté par le Hirak, le mouvement de contestation populaire qui secoue l'Algérie depuis bientôt un an. Les manifestants ont dénoncé aussi le nombre pléthorique de ministres dans le nouveau gouvernement de 39 membres. 11 ministres nommés la semaine dernière ont déjà été dans le gouvernement sortant ou sous les 20 ans de règne du président Abdelaziz Bouteflika. Comme chaque mardi et vendredi, la foule a également scandé des slogans visant le haut commandement militaire.
Conflit en Libye, les ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Italie ont condamné aujourd'hui toute ingérence extérieure à l'issue d'une réunion d'urgence à Bruxelles. Une cessation immédiate des hostilités est cruciale, indique Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Nous reviendrons sur la crise libyenne dans notre partie magazine. Au Maroc, un rapport parlementaire présenté aujourd'hui à Rabat s'alarme sur les conditions de travail éprouvantes des porteuses de marchandises entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Ces femmes, dont le nombre est estimé à 3500, sont victimes de mauvais traitements, selon ce rapport.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde. En Iran, une bousculade a fait au moins 50 morts et 213 blessés lors des funérailles du général iranien Qassem Soleimani, tué en Irak par une frappe américaine. Une foule immense a réclamé vengeance en criant « mort à l'Amérique ». Nous faisons le point avec John Lyndon.
Ce bilan, publié par le chef du service national des urgences iranien, est la conséquence de la marée humaine qui s'est rassemblée aujourd'hui à Kerman, ville natale du général, qui doit être enterré ce mardi. Chef de la force Qot, unité d'élite des gardiens de la révolution, Qassem Soleimani était l'architecte de la stratégie militaire de l'Iran au Moyen-Orient. Il a été tué vendredi par une frappe de drone américain près de l'aéroport de Bagdad. Le Parlement iranien a adopté mardi en urgence une loi classant toutes les forces américaines comme terroristes. Le processus d'expulsion des États-Unis de la région a commencé à lancer à la foule le général Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la révolution. L'Iran promet de se venger. Son chef de la diplomatie, qui devait assister jeudi à une réunion du Conseil de sécurité à l'ONU, s'est vu refuser un visa d'entrée aux États-Unis. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent à Bruxelles pour discuter de cette nouvelle montée des tensions entre Washington et Téhéran. Tout le monde craint une escalade majeure.
Iran toujours, les autorités judiciaires ont levé l'accusation d'espionnage visant Fariba Adelka, selon son avocat Saïd Degan. Cette anthropologue franco-iranienne est détenue en Iran depuis juin avec son collègue Roland Marshall. L'accusation d'espionnage peut être passible dans certains cas de la peine de mort en Iran. En Syrie, le président russe Vladimir Poutine a rencontré aujourd'hui son homologue Bachar al-Assad à l'issue de sa première visite à Damas depuis le début, il y a 9 ans, de la guerre en Syrie. Guerre où Moscou intervient aux côtés du régime, tout comme l'Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Les créanciers de la chaîne de supermarchés Nakumatt au Kenya ont voté pour sa liquidation à cause de son incapacité à payer ses dettes et après une tentative de sauvetage ratée. Les créanciers représentent des dettes d'une valeur de 158 millions de dollars. Nakumatt est un important détaillant régional qui s'est développé à partir d'un magasin de matelas dans une ville rurale avant d'avoir des succursales à travers le Kenya et l'Afrique de l'Est. Il a été contraint de fermer plus d'une douzaine de points de vente depuis 2017 à cause de ses difficultés à payer ses créanciers. Le prêteur public russe VTB a déposé une plainte auprès d'un tribunal britannique contre une société gouvernementale mozambicaine à laquelle il a prêté des sommes importantes pour un projet devant couvrir la pêche au thon, la sécurité maritime et le développement des chantiers navals. Des centaines de millions de dollars ont disparu, tandis que les avantages ne se sont jamais matérialisés. Le scandale de 2 milliards de dollars de dettes a déjà déclenché une série d'affaires judiciaires à Londres, New York et l'Afrique du Sud. Pour terminer, la compagnie Égyptaire suspend ses vols pour 3 jours à destination de Bagdad en raison de la situation sécuritaire en Irak. La suspension des vols prend effet à partir de mercredi. Vendredi, les vols seront rétablis si la situation sécuritaire se stabilise à Bagdad. Outre Égyptair, d'autres compagnies aériennes du Moyen-Orient ont suspendu leurs vols.
Maintenant, la page sport présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Ballon d'or africain, qui de Mané, de Salah ou de Mahrez sera sacré meilleur joueur africain de l'année?
Oui, le verdict c'est tout à l'heure. L'annonce sera faite ce soir lors de la soirée gala de la CAF en Égypte. Les CAF Awards, où sera dévoilé le choix du footballeur africain de l'année. Les 3 finalistes ont chacun des arguments solides pour l'emporter. Beaucoup s'attendent cependant à ce que l'attaquant sénégalais Sadio Mané soit couronné pour la première fois. Mais Riyad Mahrez et Mohamed Salah ont eux aussi eu chacun une impressionnante saison.
En football toujours, en première ligue, Chelsea compte ses pertes.
Oui, le club de Londres a publié aujourd'hui une perte de 96 millions de livres, 73 millions d'euros lors de l'exercice 2018-2019, dont un quart est imputable au licenciement d'Antonio Conte, son coach, malgré un important soutien financier de son propriétaire, Roman Abramovich. Le coach Conte, âgé de 50 ans, qui est désormais à l'Inter Milan, avait encore une année de contrat quand il avait été démis de ses fonctions en juillet 2018. Lors de sa première année, il avait remporté le dernier titre de champion des Londoniens. Et lors de la seconde, il avait gagné la Coupe d'Angleterre, mais achevé le championnat à la 5e place et donc sans qualification pour la Ligue des Champions. Conte avait été remplacé par Maurizio Sarri, qui a lui-même quitté le club un an plus tard pour rejoindre la Juve.
Rallye Paris-Dakar, l'Américain Brabec s'impose et prend la tête en moto.
Oui, Ricky Brabec de l'équipe Honda s'est largement imposé aujourd'hui lors de la 3e étape de Dakar 2020, une boucle de 404 km autour de Neom en Arabie Saoudite, et en a profité pour prendre la tête du classement général dans la catégorie moto. L'Américain a creusé d'énormes écarts avec ses adversaires et a terminé la spéciale avec près de 10 minutes d'avance sur le deuxième, son coéquipier José Ignacio Florimo. Honda réalise le triplé avec la 3e place de Juan Barreda Bort, tenant du titre. L'Australien Toby Price de KTM a été repoussé à la 35e minute. Mercredi, le Dakar quitte Neom dans le nord-ouest du pays pour rejoindre le site antique d'Al Hula.
Des oppositions de ce soir en basketball pour terminer.
Oui, Toronto affronte Portland, Cleveland joue contre Détroit. Les Brooklyn Nets seront aux prises avec Oklahoma. Memphis contre Minnesota, Phoenix Suns affronte Sacramento et les LA Lakers rencontrent les Knicks de New York.
Merci Bagassi.
Merci Claire.
Et voilà, c'est la fin de cette première partie du Monde aujourd'hui. Un petit rappel des titres. Au Cameroun, l'explosion accidentelle d'une grenade fait au moins 11 morts dans un marché en périphérie de Fotokol. Le président togolais Fornia Simbe est officiellement candidat pour un 4e mandat présidentiel.
Fermeture des bars et des maquis au Tchad pour protester contre la hausse des prix. Nous vous proposons un reportage dans la seconde partie du Monde Aujourd'hui, tout de suite dans quelques secondes. Et puis bien sûr, cette bousculade, au moins 50 morts et 212 blessés en Iran dans une bousculade lors des funérailles de Qassem Soleimani. Pour finir sur une note plus légère, le mot Brexit sera bientôt tabou au Royaume-Uni. Le mot Brexit non, ne peut plus être utilisé. Une consigne gouvernementale a été émise.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Tchad, les tenanciers de bars et alimentation ont fermé boutique depuis hier. Ils répondent ainsi à l'appel de 2 jours de boycott lancé par une organisation tchadienne qui lutte contre la vie chère pour protester contre l'augmentation des produits des brasseries du Tchad. Nous faisons le point avec notre correspondant au Tchad, André Komadjingar.
Un mouvement de protestation bien suivi en N'Djamena, capitale du Tchad et dans les provinces. C'est une initiative du collectif tchadien contre la vie chère qui trouve anormal que les brasseries du Tchad BDT puissent augmenter les prix de ces produits sans en informer au préalable les consommateurs. Les différentes bières et boissons non alcoolisées qui se vendaient entre 500 et 700 francs CFA se vendent désormais entre 650 et 850 francs CFA. Une augmentation qui fait suite à la hausse de taxes sur les prix des produits des BDT prévus dans la loi des finances 2020 par le gouvernement tchadien. Réaction de quelques consommateurs.
Ça nous pénalise en tant que consommateur parce que ça joue sur l'économie. Je sais qu'avec 1500, je peux prendre 2 bouteilles, mais maintenant, je ne peux pas prendre 2 bouteilles. C'est vraiment un manque de respect envers les consommateurs.
On peut faire une augmentation progressive, des augmentations légères, mais une augmentation aussi élevée, c'est très mauvais pour les consommateurs. Les week-ends, par exemple, ou après une semaine de travail, on a besoin un peu de se distraire. Quand les bars sont fermés, c'est un peu compliqué.
S'ils peuvent fermer définitivement, je ne vois pas le mal. Déjà, il y a notre bilbili qui est là. Fait siroter tranquillement.
Les Tchadiens boivent beaucoup. Mais cette fois-ci, les Tchadiens ont réussi quand même à leur grève. Ils ont respecté à plus de 100% même, je peux dire.
Cette fermeture n'est pas sans conséquence sur les tenanciers de bars et alimentation qui ne vivent que de cette activité.
Des journées à marcher, là, ça ne nous arrange pas. Donc, on demande aux brasseries pour qu'ils diminuent le prix.
Les consommateurs ne fréquentent pas du tout les lieux de boissons et puis ça constitue des pertes pour nous. On achète de la glace et donc on a fermé hermétiquement comme ça pour attendre à ce que l'État fasse quelque chose pour nous, s'il peut revoir leur histoire de taxes augmentées avec la brasserie.
Le président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingam Nael Nili Versinis, initiateur de ce mouvement de protestation, salue la maturité des tchadiens qui commencent à revendiquer de façon pacifique leurs droits élémentaires.
Il y avait eu contrat d'établissement entre le gouvernement tchadien et les brasseries. Après évaluation, le gouvernement tchadien a constaté que les brasseries du Tchad n'ont pas exécuté le cahier de charges. Et si aujourd'hui, le gouvernement tchadien refuse de renouveler le contrat d'établissement, ce n'est pas à nous, consommateurs, de payer à leur place.
S'ils ne reviennent pas sur leur décision, on mènera 2 actions dans les semaines. C'est-à-dire que ça serait une action perlée jusqu'à satisfaction totale de nos revendications.
Pour l'heure, silence radio du côté des brasseries du Tchad. Une protestation qui coïncide avec la grève des travailleurs du secteur public. Ce mardi, les responsables des écoles privées ont libéré les enfants en guise de soutien au mot d'ordre de grève lancé par la plateforme syndicale revendicative. André Kodumadjingar Ndiamen. VOA Afrique,
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, au moins 11 détenus sont morts depuis le début de l'année au centre pénitentiaire de Makala, la plus importante prison de Kinshasa. La raison, une rupture de stock en nourriture et en médicaments, affirment des sources pénitentiaires et humanitaires. Eddy Sango a joint à Kinshasa le président de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende.
Pendant plusieurs mois, le gouvernement congolais n'a plus fourni de la nourriture et des médicaments à la prison de Makala, ce qui est une situation générale pour les prisons de la République démocratique du Congo. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que vous allez voir qu'aucune enquête ne va être initiée pour identifier les responsables et les sanctionner pour que cela n'arrive plus. Il y a eu des échanges entre le ministère de Finances et le ministère de la justice qui se rejette la responsabilité mutuellement, mais c'est dommage que les responsables politiques puissent passer des échanges de ce niveau-là au niveau des médias.
Mais le ministre de la justice que vous citez reconnaît qu'il y avait quelques difficultés, mais que la situation est revenue à la normale, a été rétablie, et il se demande si ces morts ne sont pas causées par autre chose. Est-ce que vous qui observez les droits humains, qui regardez la situation dans des prisons, avait la certitude que c'est bien à cause des manques de médicaments et de nourriture?
Évidemment, la prise en charge des prisonniers n'est pas adéquate. C'est pour ça que à Makala, comme dans les autres prisons du pays, il y a toujours des évasions. Et particulièrement pour Makala, vous avez une prison qui a été construite pour 1 000 à 1 500 personnes. Et aujourd'hui, vous avez plus de 6 000 personnes à Makala. Comment voulez-vous que le ministre me convainque en disant que la situation s'est améliorée? D'abord, le logement des prisonniers n'est pas adéquat. Et la nourriture, les prisonniers ne mangent pas tous les jours. Et quand il y a 11 personnes qui sont mortes et que le ministre se permette de se justifier avec des arguments de ce niveau-là, je peux vous dire personnellement que je suis déçu.
D'après les autorités, les efforts ont été quand même réalisés. On a construit ou on est en train de construire ou de finaliser la construction de quelques nouveaux pavillons, même à Makala.
Non, la progressivité est due au fait que dans cette prison-là, il y a beaucoup de personnes qui sont détenues alors qu'il fallait qu'elles soient mises en liberté. Il y a des gens dont les dossiers ne sont jamais fixés devant un tribunal. Il y a des gens qui n'ont jamais été présentés devant un magistrat. Donc, il est urgent que le ministère de la Justice fasse l'évaluation de la situation judiciaire de chaque prisonnier pour qu'il soit fixé.
C'était Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la tension entre les États-Unis et l'Iran est montée d'un cran après la mort dans un raid américain en Irak du général iranien Qassem Soleimani. Téhéran promet de venger l'ancien chef des forces al-Quds, des puissants guerriers de la révolution, et a annoncé dans la foulée qu'il ne respecterait plus ses engagements sous l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. De son côté, le président Trump a indiqué que 52 cibles iraniennes ont été identifiées pour des frappes en cas de riposte. Nous allons évoquer la genèse de la crise entre Washington et Téhéran ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
À l'issue d'une réunion d'urgence à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Italie ont condamné mardi toute ingérence extérieure dans le conflit en Libye. La Turquie promet d'envoyer des troupes pour soutenir le GNA à Tripoli. Le Caire, qui soutient le général Khalifa Haftar, a abrité aussi une autre réunion sur la crise libyenne. Est-ce que toutes ces positions divergentes ne vont pas compliquer davantage le chaos libyen ? Pour un éclairage, Idriss Fall a joint à Genève Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe.
Toute intervention étrangère est de nature à compliquer la crise libyenne. Le mérite de la déclaration d'Erdogan et du vote du Parlement turc est certainement de redynamiser un petit peu la dynamique diplomatique qui était complètement à l'arrêt. Aujourd'hui, depuis le vote du Parlement, on voit bien les Égyptiens, mais on voit le réveil de la diplomatie algérienne et même le réveil de la diplomatie européenne de certains pays méditerranéens. On peut dire que finalement, grâce à cette déclaration turque, les pays voisins et les pays européens prennent conscience de l'état très avancé de la crise libyenne.
Mais la Turquie soutient le GNA, Abdel Fattah al-Sisi soutient le gouvernement de Benghazi. Est-ce que ça ne risque pas de compliquer davantage le chaos?
Oui, il n'existe pas une voie commune ou une position commune de la part des États. Le gouvernement de M. Sarraj est soutenu évidemment par la Turquie, par le Qatar et récemment par l'Algérie. On a bien vu la déclaration très forte d'Alger qui dit que Tripoli est une ligne rouge. C'est nouveau dans la diplomatie algérienne, mais on voit bien aussi du côté européen que la France et l'Italie ne sont plus en désaccord et c'est pourquoi ils assistent tous les deux à la réunion du Caire. Donc ce n'est pas pour les mêmes raisons, c'est surtout la Grèce et Chypre, c'est pour des raisons plutôt énergétiques, pour les raisons de délimitation des frontières maritimes, alors que l'Égypte et les Émirats arabes unis sont derrière Haftar à Benghazi. Donc cette politique évidemment est très nocive pour le règlement de la crise libyenne et surtout elle va compliquer la tâche des Nations Unies qui n'a pas réussi encore à donner même un délai pour la conférence de Berlin censée imposer en quelque sorte une initiative diplomatique.
Et on parle déjà d'une présence russe et apparemment Washington semble avoir un penchant de sympathie pour Khalifa Haftar.
C'est le grand paradoxe. Le gouvernement de Sarraj avait misé sur la présence russe ou sur des compagnie privée proche de Moscou pour intéresser les États-Unis. Washington n'est pas du tout intéressé par la crise libyenne et on pensait qu'avec la présence russe, les Américains allaient changer d'avis. Ce n'est pas le cas. Les Américains, ils sont toujours dans une position d'attentisme. On sait qu'ils sont présents dans le sud, dans certains pays africains limitrophes pour la lutte contre l'État islamique. Malheureusement, aujourd'hui, la position de Moscou, elle est proche de celle de Ankara en Syrie. Moscou et Alger ont une convergence diplomatique, mais la Libye risque de cristalliser et d'éloigner un petit peu les positions de certains États importants comme la Russie et les États-Unis, mais la Russie et la Turquie et la Russie et l'Algérie.
Est-ce que les Africains qui subissent les effets de la crise libyenne ont leur mot à dire dans cette affaire?
Ça, c'est la question principale, la question déterminante. Le problème, c'est que l'Union africaine, comme vous le savez, le président actuel est le maréchal Sisi, et le maréchal Sisi a une position qui est différente de celle de l'Union africaine, qui s'oppose à une intervention étrangère. Je pense qu'à Addis Abeba, l'Union africaine est appelée ces jours prochains à présenter son initiative. Il y a une réunion prévue au Conseil pour la sécurité. L'Afrique doit absolument s'occuper d'un État pionnier en Afrique, et dont l'instabilité va avoir des conséquences importantes sur les autres pays de l'Afrique.
Maman Christelle Sapo, Gambetti et Stéphane Sapo, Benjamin le petit à colonel.
Et voilà, c'est au son de l'artiste centrafricain Ozaguin et son titre Love que nous nous quittons. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Firmin Max Koyaveda, à la console Mr. Chang, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Restez avec nous tout de suite, le RM Show présenté par Roger Muntou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
na mwe mala ni tere ya ya tini so swaga swale zembati lo be. Ina mwe mala ni tere mama duti ya bi so swa ganga swa ede mbatilo ina mwe mala ni tere o oh. Yeah. Ina mwe mala ni tere ti de jom matu so swa ganga swa ede mbatilo la so giga suri na alae ala zambi ozage na fenti bogo la so ala wara siambi la so ala wara la kwembe la so ma wara mo kwembe o la suma wara mopemi ina mwe mala ni tere ya ya teme te done so swa ganga swa ede mbatilo la suma wara mopemi o la suma wara mopemi ozaga ke tambula bina lana kere la suma wara mosiambi ina mwe mala ni tere ya ya o Alexandra Fert.
Et tout de suite